France Culture.
Mythologie de Roland Barthes.
L'écrivain en vacances. Gide lisait du Bossuet en descendant le Congo. Cette posture résume assez bien l'idéal de nos écrivains en vacances, photographiés par le Figaro. Joindre au loisir banal le prestige d'une vocation que rien ne peut arrêter ni dégrader. Voilà donc un bon reportage, bien efficace sociologiquement, et qui nous renseigne sans tricher sur l'idée que notre bourgeoisie se fait de ses écrivains. Ce qui semble d'abord la surprendre et la ravir, cette bourgeoisie, c'est sa propre largeur de vue à reconnaître que les écrivains sont eux aussi gens à prendre communément des vacances. Les vacances sont un fait social récent dont il serait d'ailleurs intéressant de suivre le développement mythologique. D'abord fait scolaire, elles sont devenues depuis les congés payés un fait prolétarien, du moins laborieux. Affirmer que ce fait peut désormais concerner des écrivains, que les spécialistes de l'âme humaine sont eux aussi soumis au statut général du travail contemporain, c'est une manière de convaincre nos lecteurs bourgeois qu'ils marchent bien avec leur temps. On se flatte de reconnaître la nécessité de certains prosaïsmes. On s'assouplit aux réalités modernes par les leçons de Siegfried et de Fourastier. Bien entendu, cette prolétarisation de l'écrivain n'est accordée qu'avec parcimonie et pour être mieux détruite par la suite. À peine pourvu d'un attribut social, les vacances en sont un fort agréable, l'homme de lettres retourne bien vite dans l'empiré qu'il partage avec les professionnels de la vocation. Et le naturel dans lequel on éternise nos romanciers est en fait institué pour traduire une contradiction sublime. Celle d'une condition prosaïque, produite hélas par une époque bien matérialiste, et du statut prestigieux que la société bourgeoise concède libéralement à ses hommes de l'esprit, pourvu qu'ils lui soient inoffensifs. Ce qui prouve la merveilleuse singularité de l'écrivain, c'est que pendant ses fameuses vacances, qu'il partage fraternellement avec les ouvriers et les calicots, il ne cesse, lui, sinon de travailler, du moins de produire. Faux travailleur, c'est aussi un faux vacancier. L'un écrit ses souvenirs, un autre corrige les épreuves, le troisième prépare son prochain livre. Et celui qui ne fait rien l'avoue comme une conduite vraiment paradoxale, un exploit d'avant-garde, que seul un esprit fort peut se permettre d'afficher. On connaît à cette dernière forfanterie qu'il est très naturel que l'écrivain écrive toujours en toute situation. D'abord, cela assimile la production littéraire à une sorte de sécrétion involontaire, donc taboue, puisqu'elle échappe aux déterminismes humains. Pour parler plus noblement, l'écrivain est la proie d'un dieu intérieur qui parle en tout moment, sans se soucier, le tyran, des vacances de son médium. Les écrivains sont en vacances, mais leur muse veille et accouche sans désemparer. Le second avantage de cette logorée, c'est que par son caractère impératif, elle passe tout naturellement pour l'essence même de l'écrivain. Celui-ci concède sans doute qu'il est pourvu d'une existence humaine, d'une vieille maison de campagne, d'une famille, d'un short, d'une petite fille, etc. Mais contrairement aux autres travailleurs qui changent d'essence et ne sont plus sur la plage que des estivants, l'écrivain, lui, garde partout sa nature d'écrivain. Pourvu de vacances, il affiche le signe de son humanité. Mais le dieu reste. On est écrivain comme Louis XIV était roi, même sur la chaise percée. Ainsi, la fonction de l'homme de lettres est un peu aux travaux humains ce que l'ambroisie est au pain. Une substance miraculeuse, éternelle, qui condescend à la forme sociale pour se faire mieux saisir dans sa prestigieuse différence. Tout cela introduit à la même idée d'un écrivain surhomme, d'une sorte d'être différentiel que la société met en vitrine pour mieux jouer de la singularité factice qu'elle lui concède. L'image bonhomme de l'écrivain en vacances n'est donc rien d'autre que l'une de ces mystifications retorses que la bonne société opère pour mieux asservir ses écrivains. Rien n'expose mieux la singularité d'une vocation que d'être contredite, mais non niée, bien loin de là, par le prosaïsme de son incarnation. C'est une vieille ficelle de toutes les hagiographies. Aussi voit-on ce mythe des vacances littéraires s'étendre fort loin, bien au-delà de l'été. Les techniques du journalisme contemporain s'emploient de plus en plus à donner de l'écrivain un spectacle prosaïque. Mais on aurait bien tort de prendre cela pour un effort de démystification. C'est tout le contraire. Sans doute, il peut me paraître touchant et même flatteur, à moi simple lecteur, de participer par la confidence à la vie quotidienne d'une race sélectionnée par le génie. Je sentirai sans doute délicieusement fraternelle une humanité où je sais par les journaux que tel grand écrivain porte des pyjamas bleus et que le jeune romancier a du goût pour les jolies filles, le reblochon et le miel de lavande. N'empêche que le solde de l'opération, c'est que l'écrivain devient encore un peu plus vedette, quitte un peu davantage cette terre pour un habitat céleste où ses pyjamas et ses fromages ne l'empêchent nullement de reprendre l'usage de sa noble parole démiurgique. Pour voir publiquement l'écrivain d'un corps bien charnel, révéler qu'il aime le blanc sec et le beefsteak bleu, c'est me rendre encore plus miraculeux, d'essence plus divine, les produits de son art. Bien loin que les détails de sa vie quotidienne me rendent plus proche et plus claire la nature de son inspiration, c'est toute la singularité mythique de sa condition que l'écrivain accuse par de telles confidences. Car je ne puis que mettre au compte d'une surhumanité l'existence d'êtres assez vastes pour porter des pyjamas bleus dans le temps même où ils se manifestent comme conscience universelle. Ou bien encore, professer l'amour des reblochons de cette même voix dont ils annoncent leur prochaine phénoménologie de l'ego. L'alliance spectaculaire de tant de noblesse et de tant de futilité signifie que l'on croit encore à la contradiction. Totalement miraculeuse, chacun de ces termes l'est aussi, elle perdrait évidemment tout son intérêt dans un monde où le travail de l'écrivain serait désacralisé au point de paraître aussi naturel que ses fonctions vestimentaires ou gustatives.
Enfant. À en croire elle, qui rassemblait naguère sur une même photographie 70 romancières, la femme de lettres constitue une espèce zoologique remarquable. Elle accouche pêle-mêle de romans et d'enfants. On annonce par exemple Jacqueline Lenoir, deux filles, un roman. Marina Gray, un fils, un roman. Nicole Dutreil, deux fils, quatre romans, etc. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ceci. Écrire est une conduite glorieuse, mais hardie. L'écrivain est un artiste. On lui reconnaît un certain droit à la bohème, comme il est chargé en général, du moins dans la France de elle, de donner à la société les raisons de sa bonne conscience, il faut bien payer ses services. On lui concède tacitement le droit de mener une vie un peu personnelle. Mais attention ! Que les femmes ne croient pas qu'elles peuvent profiter de ce pacte sans s'être d'abord soumises au statut éternel de la féminité. Les femmes sont sur la terre pour donner des enfants aux hommes. Qu'elles écrivent tant qu'elles veulent, qu'elles décorent leurs conditions, mais surtout qu'elles n'en sortent pas. Que leur destin biblique ne soit pas troublé par la promotion qui leur est concédée et qu'elles payent aussitôt par le tribut de leur maternité cette bohème attachée naturellement à la vie d'écrivain. Soyez donc courageuses, libres, jouez à l'homme, écrivez comme lui. Mais ne vous en éloignez jamais. Vivez sous son regard, compensez vos romans par vos enfants. Courez un peu votre carrière, mais revenez bien vite à votre condition. Un roman, un enfant, un peu de féminisme, un peu de conjugalité, attachons l'aventure de l'art au pieu solide du foyer. Tous deux profiteront beaucoup de ce va-et-vient. En matière de mythe, l'entraide se pratique toujours fructueusement. Par exemple, la muse donnera son sublime aux humbles fonctions ménagères. Et en revanche, à titre de remerciement pour ce bon office, le mythe de la natalité prête à la muse, de réputation parfois un peu légère, la caution de sa respectabilité, le décor touchant de la nurserie. Ainsi, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, celui de elle. Que la femme prenne confiance, elle peut très bien accéder comme les hommes au statut supérieur de la création. Mais que l'homme se rassure bien vite. On ne lui enlèvera pas sa femme pour autant. Elle n'en restera pas moins par nature une génitrice disponible. Elle joue prestement une scène à la Molière. Dit oui d'un côté et non de l'autre. S'affaire à ne désobliger personne. Comme donjon entre ces deux paysannes, elle dit aux femmes « Vous valez bien les hommes ». Et aux hommes, votre femme ne sera jamais qu'une femme. L'homme semble d'abord absent de ce double accouchement. Enfants et romans ont l'air de venir aussi seuls les uns que les autres, n'appartenant qu'à la mère. Pour un peu, et à force de voir 70 fois œuvre et gosse dans la même parenthèse, on croirait qu'ils sont tous fruits d'imagination et de rêve, produits miraculeux d'une parthénogénèse idéale qui donnerait en une seule fois à la femme les joies balzaciennes de la création et les joies tendres de la maternité. Où est donc l'homme dans ce tableau de famille? Nulle part et partout, comme un ciel, un horizon, une autorité qui à la fois détermine et enferme une condition. Tel est ce monde de elle. Les femmes y sont toujours une espèce homogène, un corps constitué, jaloux de ses privilèges, encore plus amoureux de ses servitudes. L'homme n'y est jamais à l'intérieur. La féminité est pure, libre, puissante. Mais l'homme est partout autour. Il presse de toutes parts. Il fait exister. Il est de toute éternité l'absence créatrice, celle du dieu racinien. Monde sans homme, mais tout entier constitué par le regard de l'homme, l'univers féminin de elle est très exactement celui du gynécée. Il y a dans toute démarche de elle ce double mouvement. Fermez le gynécée et puis seulement alors lâchez la femme dedans. Aimez, travaillez, écrivez, soyez femme d'affaires ou de lettres, mais rappelez-vous toujours que l'homme existe et que vous n'êtes pas faite comme lui. Votre ordre est libre à condition de dépendre du sien. Votre liberté est un luxe. Elle n'est possible que si vous reconnaissez d'abord les obligations de votre nature. Écrivez si vous voulez. Nous en serons toutes très fières. Mais n'oubliez pas non plus de faire des enfants, car cela est de votre destin. Morale jésuite. Prenez des accommodements avec la morale de votre condition, mais ne lâchez jamais sur le dogme qui la fonde.
Les journalistes qui sont de braves types et qui, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, se sont tout d'un coup pris d'un béguin pour moi. Les journalistes, ils se sont pas cassés la tête. L'explication, ça a été de dire et d'écrire, il faut canoniser l'abbé Pierre. Je leur réponds...
Iconographie de l'abbé Pierre.
Leur explication m'inquiète un peu.
Le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux. La tête de l'abbé. C'est une belle tête qui présente clairement tous les signes de l'apostolat. Le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité. La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure entièrement abstraite de l'art et même de la technique, une sorte d'état zéro de la coupe. Il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette opération nécessaire n'implique au moins aucun mode particulier d'existence, qu'elle soit sans pourtant être quelque chose. La coupe de l'abbé Pierre, conçue visiblement pour atteindre un équilibre neutre entre le cheveu court, convention indispensable pour ne pas se faire remarquer, et le cheveu négligé, état propre à manifester le mépris des autres conventions, rejoint ainsi l'archétype capillaire de la sainteté. Le saint est avant tout un être sans contexte formel. L'idée de mode est antipathique à l'idée de sainteté. Mais où les choses se compliquent, à l'insu de l'abbé, il faut bien le souhaiter,
c'est qu'ici comme ailleurs, la neutralité finit par fonctionner comme signe de la neutralité. Et si l'on voulait vraiment passer inaperçu, tout serait à recommencer. La coupe zéro, elle, affiche tout simplement le franciscanisme. Conçue d'abord négativement pour ne pas contrarier l'apparence de la sainteté, bien vite, elle passe à un mode superlatif de signification, elle déguise l'abbé en saint François. D'où la foisonnante fortune iconographique de cette coupe dans les illustrés et au cinéma, où il suffira à l'acteur Rébaz de la porter pour se confondre absolument avec l'abbé. Même circuit mythologique pour la barbe. Sans doute peut-elle être simplement l'attribut d'un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui répugne à perdre le temps de se raser. La fascination de la charité peut avoir raisonnablement ces sortes de mépris. Mais il faut bien constater que la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n'est point barbu au hasard parmi les prêtres. La barbe y est surtout attribut missionnaire ou capucin. Elle ne peut faire autrement que de signifier apostolat et pauvreté. Elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier. Les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus évangéliques. L'horrible Frollo était rasé, le bon père de Foucault, barbu. Derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie, à l'église politique. On semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot, plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaire de l'esprit contre la lettre. Porter la barbe, c'est explorer d'un même cœur la zone, la Brittonie ou le Nyasaland. Évidemment, le problème n'est pas de savoir comment cette forêt de signes a pu couvrir l'abbé Pierre, encore qu'il soit à vrai dire assez surprenant que les attributs de la bonté soient des sortes de pièces transportables, objets d'un échange facile entre la réalité, l'abbé Pierre de Match, et la fiction, l'abbé Pierre du film, et qu'en un mot, l'apostolat se présente dès la première minute tout prêt, tout équipé pour le grand voyage des reconstitutions et des légendes. Je m'interroge seulement sur l'énorme consommation que le public fait de ces signes. Je le vois rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et d'une vocation, ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre, n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son bric-à-brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin de la sainteté. Et je m'inquiète d'une société qui consomme si avidement l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur ses conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise une fois de plus pour substituer impunément les signes de la charité à la réalité de la justice.
C'était « Mythologie » de Roland Barthes. Aujourd'hui, l'écrivain en vacances, lu par Serge Renco. Roman et enfant, par Catherine Laborde. Iconographie de l'abbé Pierre, par Jérôme Robard. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Annick Brien. Assistante, Céline Terce. Réalisation, Jean Couturier.